L'hymne de Marie, Luc 1. Et Marie dit : Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham, et sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Face à face, 2 cousines enceintes. Élisabeth, dont la grossesse est totalement inespérée, Marie, avec une grossesse tout autant inattendue. 2 textes de Luc se succèdent pour apporter la rencontre des parentes, la visite de Marie à Élisabeth et l'hymne de Marie, texte du jour. Or, quelques versets de l'hymne atteignent chez la mère de Jésus une réflexion sur le monde inouïe. Les 2 cousines se retrouvent chez Élisabeth parce qu'elle est sans enfant et à cause de cela ravagée de tristesse solitaire et de honte publique pendant des années, Dieu a exaucé son vœu le plus cher, être mère. Luc, non seulement évangéliste, mais médecin, note Luc 1:41-42, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Le corps enceint, le mouvement de l'enfant, la grâce, tout s'enchaîne. À Marie, toute jeune, Dieu a demandé par l'intermédiaire de l'ange si elle acceptait de mettre au monde le Sauveur. Emplie de joie, elle a répondu oui, alors que seulement fiancée. Poussée par l'envie de partager avec sa cousine ces événements bouleversants, elle fait son baluchon en hâte, quitte Nazareth et s'en va grimper seule par les chemins escarpés pour franchir la montagne. À son arrivée chez Élisabeth, nous entendons de sa bouche impatiente « Je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur ». La grâce, le corps enceint, le mouvement du voyage, tout s'enchaîne. Mais pour Marie, de mouvement, il n'y a pas que le voyage. Après avoir exprimé son immense gratitude envers Dieu, dans ce texte longtemps nommé le Magnificat, titre tiré du premier mot du chant en latin, qu'il soit rendrugant, elle lance l'hymne le plus révolutionnaire de la Bible, chant renversant. Qui voit-on ? D'abord, un bras qui sort de la page. Il a déployé le pouvoir de son bras. Tout empereur romain qui se respecte sait faire cela, mais cette fois, l'ordre est donné de renverser l'ordre injuste des choses. Et comment ? Ceux qui ont des pensées orgueilleuses, hop, les voici dispersés, affolés, incapables de tenir leur rang, désormais inaptes à l'allure noble et souveraine, signe de leur importance. Et quoi encore ? Les puissants quittent leur trône. Humiliant, n'est-ce pas ? Mieux, Dieu a élevé les humbles. Effet de contrepoids, les uns sont descendus, les autres élevés. Encore mieux, voici les riches les mains vides, tandis que les pauvres en ont plein les poches, au-delà de leurs espérances. Et c'est Marie, livrée par le 19e siècle, en icône d'effacement et de soumission des femmes à tout pouvoir temporel, c'est elle qui tient de tels propos révolutionnaires. Mais il ne s'agit pas de ses propres mots, argumentent certains arcs-boutés à l'image traditionnelle. et de brandir des passages tirés de l'Ancien Testament, entre autres le premier livre de Samuel, Chant d'Anne 2:3-8. Ne multipliez pas les paroles hautaines, qu'aucune insolence ne sorte de votre bouche. Ceux qui étaient rassasiés se vendent pour du pain, mais ceux qui étaient affamés ont du répit. C'est lui, le Seigneur, qui rend pauvre ou riche, c'est lui qui abaisse et qui élève. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il élève le pauvre, pour le faire asseoir parmi les nobles. Marie reprend à son compte ce chant d'Anne, mais rien d'étonnant à cela. Elle connaît par cœur les textes de la Bible. Ils lui viennent spontanément en tête, renfort de sa pensée à elle qui vit dans un pays ployant sous la domination romaine. Marie a-t-elle épousé la révolte qui sourd parmi le peuple d'Israël? Bafouée, le pays attend un roi qui le délivre du joug de l'occupant. Un temps, il espérera que ce roi sera Jésus. Par dérision, Ponce Pilate, resté à cette hypothèse, inscrira sur la croix les lettres « Inri, Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Si le Magnificat fait écho à l'attente du peuple d'Israël, n'ouvre-t-il pas aussi sur la contestation de tout pouvoir abusif? Question d'autant plus légitime qu'au XXIe siècle, en 2003, un article paru dans le journal du Monde révèle ceci. Les généraux argentins au pouvoir, prenant au pied de la lettre une célèbre déclaration de Charles Maurras, la grandeur du catholicisme romain et d'avoir purgé l'Église du venin du Magnificat, ont fait retirer des manuels religieux de leur pays les versets apparemment subversifs. Autant ne pas donner de mauvaises idées aux opprimés. Alors, si le Magnificat parle vraiment de révolution, arrêtons-nous sur le mot. Révolution veut dire rupture, discontinuité. Il existe des révolutions politiques, industrielles, technologiques, avant, après, ce n'est plus pareil. Ici, quelle révolution? Pour tenter de répondre, posons la question en interrogeant très subjectivement Marie. Qui es-tu, Marie? Portrait en quatre touches. 1. C'est une femme libre. Elle le montre à l'Annonciation. « Tu seras mère », lui apprend l'ange. Ce n'est pas encore fait. Elle peut répondre non. Or, elle accepte, énonçant d'abord un « je libre ». « Je suis l'esclave du Seigneur », soit « je suis dans une grande proximité avec lui et à son service ». Quand le messager se retirera, la vie de Marie sera changée. De même, au détour de la vie, surgissent parfois des personnes que l'on ne reverra plus, mais dont les remarques nous touchent profondément. Que s'est-il passé? Au moment où leurs paroles nous bouleversent, nous sommes préparés au changement sans le savoir, travaillés depuis longtemps par l'idée que révèle soudain l'échange. C'est peut-être le cas pour Marie. À force d'être entière à l'écoute de Dieu, elle s'est préparée à tout ce qu'il lui demandera. Son désir intime, servir Dieu, mais elle ne sait comment. Le messager survient pour l'éclairer. Voilà pourquoi, dans sa réponse, elle s'affirme en femme libre et responsable de ses choix. Le deuxième moment fort de la vie de Marie est le Magnificat. La première partie, vibrante de gratitude, tout le monde l'a retenue. Mais les versets suivants, lourdes contestations sur le monde, disparaissent vite, noyés dans des commentaires diluants. Or, la réalité est vraiment, Marie n'accepte pas le monde tel qu'il va. Troisième moment, Marie aux noces de Cana. Émue de ce que le vin commence à manquer à la fin du banquet, elle incite son fils à régler le problème. Il la renvoie durement, Jean 2:1-7. Femme, qu'y a-t-il de commun entre toi et moi en cette affaire? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie ne s'arrête pas au raidissement de son fils, aucunement prêt à accomplir quelque miracle que ce soit. Pourtant, au serviteur, elle ordonne « Faites ce qu'il vous dira ». On connaît la suite, l'eau transformée en vin, premier miracle, premier pas du fils. Ainsi, Marie croit en la possibilité d'un monde autre, le miracle en est la preuve. Enfin, quatrième moment, Marie au pied de la croix avec Jean. Jésus va mourir. Il laisse Marie sans protection masculine, connue comme mère de proscrit. Situation dangereuse, promesse de misère. Du haut de la croix, il intervient et déclare à sa mère, désignant Jean, Jean 18, 26, 28, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Le message indique clairement cette pensée de Jésus, de Marie, de Jean, le monde autre est fait de solidarité et de réciprocité. Résumons. Marie s'affirme en femme libre qui exprime une parole personnelle. Elle conteste l'ordre social injuste. Elle croit en un monde autre. Jésus confirme qu'il s'agit d'un monde de solidarité et de réciprocité. Pour encore faire plus court, Marie, avant Jésus, n'est-elle pas animée d'une pensée que l'on pourrait dire libertaire? La pensée libertaire ne croit pas nécessaire un quelconque pouvoir coercitif. Elle défend la liberté individuelle, récuse la volonté de domination et a pour projet une organisation sociale idéale fondée sur l'égalité des membres, la coopération, voire la communauté des biens. Finalement, le mode de vie des premiers chrétiens ne met-il pas en œuvre une forme de projet libertaire? Ils ont commencé à construire un monde autre, et nous en sommes les héritiers lointains. Bien obligés de composer avec le pouvoir temporel, d'agir pour le faire évoluer ou de batailler ponctuellement contre lui. Si nous sentons souffler dans ce texte, qualifié souvent de révolutionnaire, un esprit plus précisément libertaire, alors la révolution dont parle Marie est spirituelle. Jésus n'est pas venu pour un projet politique, mais pour enseigner la bonne nouvelle, le règne de Dieu à venir, irrigué par l'amour du prochain, notre semblable. Il s'agit d'une révolution intime, introduction à un monde d'humilité en recherche d'harmonie sur une terre où, qui que nous soyons, nous recevons le même amour de Dieu. Marie est la première croyante. Luther, fort de 80 prédications sur Marie, le savait bien. Ne s'est-il pas senti porté par le Magnificat, lui, le petit moine, opposé par la parole à Charles Quint, aux papes, aux cardinaux et théologiens de Rome? Luther voit en Marie, pleine de gratitude envers Dieu, la figure de la grâce et de la foi. Foi en Dieu incommensurable. Pour s'en convaincre, il suffit de revenir à la conjugaison des verbes dans l'hymne. Avec l'emploi du passé composé, on comprend que pour elle, tout se passe comme si la révolution libertaire, hostile à tout esprit de domination coercitive, était déjà advenue. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé, etc. C'est fait. Dès la conception de l'enfant, le règne de Dieu a commencé de s'accomplir. On compte dans la Bible de multiples témoignages de foi immédiate chez les femmes. Je pense à l'exemple musical de Myriam, sœur de Moïse, Exode 15, 20-21. Souvenez-vous, libérée de l'esclavage en Égypte, le peuple vient de traverser la mer Rouge. Dès sur l'autre rive, les hommes entonnent un chant d'une seule voix. Mais Myriam et de nombreuses femmes ont emporté des tambourin, instrument indispensable, vous en conviendrez, quand on se met à fuir le danger à toutes jambes. Une fois les hommes tués, les femmes chantent au son du tambourin. Avant de partir précipitamment, elles ont anticipé le succès de leur échappée, confiantes dans la compassion de Dieu. Après 3 mois de visite à sa cousine, inaugurée par cet étonnant hymne libertaire, Luc nous apprend que Marie rentre chez elle le plus simplement du monde. Et nous, quand nous rentrerons chez nous, après le culte, nous reprendrons notre vie habituelle. Puissions-nous avoir un tambourin prêt? Pourquoi? Parce que, découragés par la violence et les guerres, ou même désorientés par notre propre comportement, nous croyons cependant que le règne de Dieu a pris chair avec la venue de l'enfant Jésus. La grâce du don de Dieu, une fois accueillie, entraîne le corps et le mouvement. On ne peut plus en rester à l'immobilité, ni au découragement, ni à l'incompréhension sur soi-même. Suivant l'exemple de Marie, ouvert à l'attente unique de Dieu sur chacun et chacune, il n'y a pas d'autre choix que de prendre sa vie à bras le corps. La grâce, le corps, le mouvement, tout s'enchaîne. Alors, tambourin !